Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. De 1963 à 1982, au moins 2150 enfants ont été arrachés de leur terre natale, l'île de la Réunion, pour venir repeupler des départements métropolitains, dont majoritairement celui de la Creuse. Une émigration forcée, un déplacement terrifiant de mineurs, dont des bébés de 3 mois parfois, un déracinement, voire une déportation organisée par l'État français. Cet épisode sombre de notre histoire commune, connu sous le nom de l'affaire des enfants réunionnais de la Creuse, est resté des décennies dans l'ombre. Mais ces derniers temps, les témoignages se sont multipliés, les lèvres se sont desserrées et le 18 février 2014, l'Assemblée nationale a reconnu la responsabilité morale de l'État français envers ses pupilles de la nation. Au livre, au documentaire, voire aux chansons qui sortent de l'oubli ces terribles faits et les conséquences tragiques sur les victimes, s'ajoute aussi aujourd'hui un roman publié sous le titre « Un soleil en exil » qui est apparu aux éditions Gallimard. Bonjour Jean-François Samelon.
Bonjour.
Vous êtes né à La Réunion. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez appris l'histoire des enfants de la Creuse?
Ben, déjà, j'ai appris par les journaux qui commençaient à en parler. Mais en fait, le déclic, si vous voulez, qui m'a poussé à écrire ce roman Un soleil en exil, c'est que lors d'un dîner avec mes sœurs dans le sud de l'île, au Tampon, ma sœur aînée me regarde droit dans les yeux et me dit « Toi aussi, tu aurais pu être un enfant de la Creuse ». Alors le choc, bien sûr, parmi la famille, et puis en remontant de mon enfance, puisque j'étais abandonné par ma mère et élevé par mes grands-parents, et les grands-parents à l'époque laissaient faire les petits-enfants qu'ils adoraient. Et donc, ça a été la promenade sur le bord de mer, la rivière, les champs de canne, la cascade, etc. Et effectivement, la voiture rouge qu'on appelle à La Réunion aurait pu passer et m'embarquer, me mettre dans un avion et m'expédier dans la Creuse.
Oui, parce que vous aviez 14 ans, donc...
J'avais 13 ans, 14 ans, comme un petit copain, bon, voilà, à traîner un peu partout, à la campagne, puisque c'était la campagne. Et donc, à ce moment-là, on aurait pu tomber sous le coup de ce qu'on appelle une RALF, séquestration et puis déportation dans les jours qui suivent.
Il faut rappeler... les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette histoire, il faut dire que La Réunion a connu un certain nombre de cyclones, donc des problèmes économiques qui faisaient qu'il y avait une grande misère sur l'île, et que donc un député, Michel Debré pour le nommer, a décidé que pour sortir ces enfants de la misère, on allait les prendre et les transplanter en France, dans la Creuse et alentour, puisque c'était des régions qui étaient dépeuplées, il y avait eu un exode rural, donc on allait faire revivre ces régions, et en fait tout ça n'était qu'un vaste mensonge.
Un terrible mensonge, si je peux dire. C'est vrai que au sortir de la départementalisation en 1946, et puis surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'île de La Réunion se trouve dans une situation sociale périlleuse. Et puis en même temps, on a une natalité bondissante. Donc en zone rurale française, métropolitaine, si vous voulez, on a des régions dépeuplées, comme la Creuse, et à La Réunion, on a une île surpeuplée. Et là, les hommes politiques, y compris Michel Debré, ils se sont dit, bon, peut-être qu'il y a un échange à faire. Le problème, c'est qu'on a promis aux familles les plus miséreuses, les plus pauvres, des promesses effarantes, leur disant, vos enfants, s'ils partent, ils deviendront instituteurs, professeurs, médecins, avocats, etc. Ce qui était un leurre le plus horrible. Alors imaginez ces enfants, 6, 7, 8, 9, 10, 18 ans, qu'importe l'âge, quasiment analphabètes, qui ne parlent que le créole et non pas le français. Donc ils vont se retrouver ici avec la barrière de la langue et avec la couleur de leur peau. Bon, les Réunionnais d'origine africaine, ben, ils vont rencontrer le racisme et également petits nègres, petits négros. Et surtout, par rapport aux paysans de la Creuse, ils vont connaître les abus les plus inimaginables, si vous voulez, travailler dans les champs, sur le toit de la maison, en hiver, à dormir avec les bêtes dans la grange et non pas avec le paysan dans la maison. Alors quand on me parle d'une formation, je ris, mais je ris avec beaucoup de douleur. Je me dis, où est la formation quand en face, il y a déjà le mépris de l'autre. En fait, les paysans du coin, que ce soit la Creuse, le Gers, le Tarn, l'Auxerre, Corrèze, etc., en fait, c'était une manne tombée du ciel, puisque à la fin du mois, ils recevaient des indemnités de la part de la DAS de ces départements-là, et ne voyaient pas plus loin. Et il est vrai que dans cette Creuse des années 60-70, que les géographes appellent la diagonale du vide, il n'y a rien, absolument rien. Moi-même, j'y étais en 2014 pour les besoins de mon roman, et ça a été toujours la diagonale du vide. On fait des kilomètres sans rien voir du tout, une ferme de temps en temps. Et là, je me dis, ces jeunes enfants de 13-14 ans, quand ils ont fugué pour essayer de rejoindre le foyer de l'enfance ou de guérir, qu'est-ce que ça a été comme frousse, comme peur, comme frayeur, comme stupeur et comme souffrance également. Et je raconte cet épisode-là dans mon roman Un soleil en exil. Donc, il y a aussi toute une misère affective qui est tombée sur les épaules de ces jeunes. Alors, n'en parle pas des filles avec les attouchements sexuels, les viols, les mises enceintes à droite et à gauche, et les tentatives de suicide et les suicides. On n'en parle pas. Oh, il y en a eu. Moi, j'ai rencontré une ex-mineure de la Creuse qui est rentrée il y a quelques années à La Réunion, et toujours sous médicament parce que elle ne s'est pas remise de cette tentative de suicide. En revanche, une petite lumière en me disant que une fois qu'elle est arrivée à La Réunion, ça va beaucoup mieux. Elle a retrouvé son île, une sorte de réconciliation avec sa terre natale, avec elle-même, et donc elle aurait tendance de plus en plus à se passer de médicaments. Mais le traumatisme est toujours là. Elle n'a pas pu se réconcilier, par exemple, avec ses parents, parce qu'il y a de la honte du côté des parents.
Et la culpabilité.
Et la culpabilité, bien sûr. De part et d'autre. Ce qui fait que les ex-mineurs qui, 30 ans, 40 ans, reviennent à La Réunion, ben, ils sont de nouveau abandonnés à eux-mêmes, comme ils ont été abandonnés à eux-mêmes quand on les a envoyés dans les années 60-70 dans les zones rurales dépeuplées de la métropole. Et là, aujourd'hui, moi, je crie scandale, et je suis pas le seul. La députée Erika Barège également, avec qui j'ai fait un débat vendredi dernier, on demande aujourd'hui quoi? La mise en place des cellules d'écoute psychologique aux quatre coins de l'île, pour que quand ces ex-mineurs de la Creuse arrivent, ben, qu'ils aient quelqu'un en face d'eux pour l'expliquer. Peut-être il faut faire un travail sur soi, ben, déjà dire tout ce qu'ils ont à dire librement, sans qu'on ait à les juger, sans qu'on ait à les rendre responsables de quoi que ce soit. Moi, je lui ai dit, vous n'avez pas à avoir honte de votre histoire. Votre histoire, on vous l'a imposée. À aucun moment, on ne vous a demandé votre avis. À aucun moment, on a respecté vos rêves. À aucun moment, on a respecté votre avenir. Par conséquent, la culpabilité, elle est du côté de l'État français.
Donc, 40 ans après les derniers voyages et les derniers déplacements, maintenant qu'on se rend compte que ça a été une totale illusion, vous avez l'impression, Jean-François Salmon, que c'est un traumatisme important à La Réunion ?
À La Réunion, pas. Les Réunionnais préfèrent ne plus entendre parler de cette affaire. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Les hommes politiques, encore moins. Et c'est là où nous, écrivains et intellectuels, on a à se battre auprès, aux côtés de ces ex-mineurs de la Creuse, pour qu'ils puissent faire entendre leur voix. Et après l'apparition de ce roman, effectivement, j'en ai rencontré beaucoup. Ils m'appellent, ils m'envoient des SMS par Internet, sur Messenger, etc. Les messages viennent de tous les côtés, ce qui fait qu'il y a une grosse demande d'écoute. Et le respect aujourd'hui, c'est de pouvoir les écouter. Le respect, c'est de pouvoir les respecter et de leur permettre de retrouver une certaine dignité. Alors, quand je dis que permettre aux ex-mineurs de la Creuse de retrouver une certaine dignité, mais c'est aussi en même temps permettre à la France métropolitaine de retrouver une dignité dans cette affaire, parce qu'elle est coupable dans cette affaire. Il est vrai qu'au départ, si vous voulez, on me dit, oui, c'était pour le bien des enfants. D'accord. Mais si vous voulez, dès 68, 70, 72, 75, de haut fonctionnaires français ont tiré la sonnette d'alarme. Par exemple, le professeur Denois, directeur de la santé, a adressé une lettre à Michel Debré, lui disant il ne comprend pas ces petits réunionnais qui arrivent dans les centres de santé avec des troubles mentaux plutôt inquiétants. Donc, il parle de déportation dans sa lettre. Bien sûr, Michel Debré prend ça de très très haut et oblige le professeur Benoît à revenir sur le terme de déportation et ne fait rien pour qu'il y ait un suivi de la part des responsables de la DAS, de ces milliers d'enfants placés dans les zones rurales dépeuplées. Le directeur du foyer d'enfance de Guéret, donc lui-même, adresse une lettre à Michel Debré lui disant « Écoutez, il faut affréter un avion militaire et faire rentrer rapidement ces jeunes réunionnais dans leur île natale. » Et qu'est-ce qu'on fait? Il est limogé dès le lendemain et remplacé par un autre directeur. Et ainsi de suite, le préfet de la Réunion tire la sonnette d'alarme, le préfet de la Corrèze tire la sonnette d'alarme, et en fait, Michel Debré ne veut rien entendre. Et cette marée de souffrance continue jusqu'en 1984.
J'ai l'impression, en vous écoutant, Jean-François Samelon, qu'il y a donc encore un peu un tabou autour de cette histoire à La Réunion où les gens n'ont plus trop envie d'en parler. Et vous le dites, c'est nous les artistes, nous les intellectuels qui reprenons ou qui prenons peut-être même le flambeau de cette vérité. Et en même temps, je me demandais, vous avez une œuvre littéraire importante, plus d'une douzaine de romans déjà publiés. Que se passe-t-il pour que ce soit aujourd'hui, pour que ce livre paraisse en 2019, pour que vous ayez envie vraiment de mettre en lumière ces événements tragiques?
Il y a eu deux autres détonateurs, si vous voulez. C'est en 2002, lorsque Jean-Jacques Martial a intenté un procès à l'État français, justement pour enlèvement, rafle et séquestration. Il a demandé une indemnité de 1 milliard d'euros à l'État français. Bon, et c'est tombé sous le coup de prescription. Je dis là quand même, il y a du courage. Ces Réunionnais qui ont été abîmés, parce qu'ils sont abîmés, faut bien le dire, hein. Intérieurement, on ne les reconnaît pas, ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes. Mon éditeur parle des cabossés de l'histoire, des cabossés de l'apocalypse, et c'est vrai. Et puis il y a eu la résolution portée à l'Assemblée nationale, vous en avez parlé tout à l'heure, par la députée Erika Baredge. Et je crois qu'en même temps, il y a eu un afflux des ex-mineurs de La Réunion vers l'île, un retour. Et donc ce retour ne peut pas laisser indifférent l'artiste, l'écrivain, l'intellectuel, ce n'est pas possible, parce que c'est un retour à la souffrance. Alors le drame de cette souffrance, c'est que elle passe d'une génération à l'autre. Moi, j'ai rencontré Christian, qui est revenu à La Réunion, qui épousait une femme de Limoges. Ses enfants sont nés à Limoges. Ses petits-enfants sont nés à Limoges. Et lui, il éprouvait le besoin, après sa retraite, de rentrer à La Réunion avec son épouse, laissant derrière eux enfants et petits-enfants. Donc, vous voyez comme d'une génération à l'autre, la répercussion de la souffrance est toujours là, omniprésente.
Et donc, vous avez pris les armes, d'une certaine façon, Jean-François Samelon, votre plume pour écrire cette histoire, mais pour écrire un roman dont nous allons parler tout de suite après une chanson.
Mae banar a fi'n boffi Nid ag dwydo fy debw mi La cerveza lo gan o maleo E pisa fe gusto o mo Que ora como Trena nu jisca la fos
Ora fos, ora fos Ora fos, ora fos O pili pato fu
Mais se mentit doucement, le temps y vient plus frais. Un jour la neige va commencer à tomber, la connaître douleur, la connaître souffrance. Quand notre pays sans coster semble la France.
Pour la France, pour la France, pour la France. Où ça va n'aïra la nous, au pays bateau fou, où ça va n'aïra la nous, au pays bateau fou, où ça va n'aïra la nous.
Vous Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Jean-François Samelon, auteur du roman Un soleil en exil aux éditions Gallimard, qui revient sur l'affaire dite des enfants de la Creuse, où on l'a dit en première partie, plus de 2000 mineurs ont été déportés de l'île de la Réunion vers la métropole, officiellement pour les sortir de la misère et redonner de la vie à des régions dépeuplées. Mais dans les faits, ils ont été pour la plupart victimes de racisme, de maltraitance, d'abus sexuels, d'esclavagisme, poussant les plus fragiles au suicide et ou à la folie. Et pour donner voix à ces enfants abandonnés, vous imaginez, Jean-François Samelon, une fratrie avec Eva, 16 ans, l'aînée, et ses deux frères, Tony, 14 ans, Manuel, 11 ans. Trois enfants qui vivent tant bien que mal, avec néanmoins un père en prison et une mère malade, laquelle, dans un moment de faiblesse, signe ce terrible papier qui les envoie donc en métropole. Et c'est Eva, l'adolescente, qui, à la première personne, nous raconte leur épopée. Est-ce que cette jeune fille vous a été inspirée par quelqu'un en particulier, Jean-François Samelon?
Tout à fait. Le prénom de Eva, H-E-V-A, c'était le prénom de la femme d'Anchin. Anchin, c'était un noir esclave qui s'était enfui de la plantation. Un esclave fugitif. D'ailleurs, dans le cirque de Salazie à La Réunion, il y a un python qui porte son nom, le python d'Anchin. Et en choisissant ce prénom, j'ai voulu tracer une ligne, si vous voulez, direct entre la période esclavagiste et cette période des enfants transplantés dans la Creuse et plus de 83 départements métropolitains. Et puis j'ai voulu aussi que ce soit une femme qui raconte cette terrible histoire des enfants de la Creuse, parce que je l'ai toujours dit depuis l'aube du peuplement de l'île, de mon point de vue, c'est la femme réunionnaise qui porte la société sur ses épaules. Et je l'ai vu avec ma grand-mère et avec bien d'autres femmes. C'est elle, très souvent, qui s'occupe de l'éducation des enfants, donc de l'avenir même de l'île. À travers Eva, j'ai voulu rendre aussi un hommage à la femme réunionnaise. Par sa combativité, elle ne lâche rien, elle est hargneuse, elle veut aller jusqu'au bout de la souffrance même, qu'importe, mais pourvu qu'on y aille, qu'on ne reste pas en place à se croiser les bras. C'est ça la femme réunionnaise, et c'est ça Eva, et ça qui me plaît en elle. Et puis voilà quoi, donc moi j'ai eu beaucoup de plaisir à rentrer dans la psychologie féminine d'Eva, de l'accompagner dans son combat. À aucun moment je ne l'ai abandonnée, j'ai toujours été à ses côtés, du début jusqu'à la fin. Et même quand elle pianote sur sa vieille machine à écrire, moi je me vois tout jeune en train d'écrire mes premiers romans. Donc il y a cette complicité intellectuelle entre Eva et moi, moi et Eva.
Alors on va faire un petit peu machinaria, si vous voulez bien, Jean-François Samelon, pour revenir au moment où elle nous raconte leur arrivée en 1970, avec cette double douleur à la fois de partir de l'île, de quitter leur mère, et une troisième peine les attend, puisque par principe, tous les frères et sœurs sont séparés, avec comme consigne qu'ils ne se revoient plus, ni sachent même où ils ont été placés les uns et les autres. Je dois dire que, à la lecture de votre roman, Jean-François Samelon, qui est évidemment extrêmement documenté, je suis restée sans voix devant tant de cruauté. Surtout que là, nous sommes dans les années, donc, 1965-1970, c'est-à-dire à peine 25 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on se dit, ces gens ont tout oublié de ce que c'était que de faire ça. Alors, il y a néanmoins quelques-uns, justement, ceux qui vont accueillir Eva, qui, eux, n'ont rien oublié du passé. C'est dans cette maison tenue par une vieille dame juive d'origine allemande, qui a été, elle aussi, persécutée. Et puis un homme à ses côtés, un intendant, qui était
un ancien résistant
pendant le conflit. Et ces deux personnes vont montrer de la compréhension et de la bienveillance envers Eva. On se dit que c'était peut-être un cas de figure exceptionnel. Ou pensez-vous, Jean-François Samelon, qu'il y a quand même eu quelques familles qui ont pris soin des petits réunionnais comme ils auraient pu prendre soin de leurs propres enfants?
Il y a eu quelques familles, effectivement, qui se sont montrées à la hauteur de cette mission, accueillir de petits-enfants qui viennent d'ailleurs et leur offrir un avenir. Cette semaine, une ex-mineure de la Creuse m'a appelé en me disant « Moi, dans ma famille d'accueil, je n'ai qu'à remercier ceux qui m'ont élevé et qui m'ont donné un avenir. » Il n'empêche qu'aujourd'hui, cette femme qui a dans les 60 ans, Elle a su justement qu'elle venait de la Réunion. Elle s'est mise à la recherche de son dossier. Et au fil des recherches, là, je vous parle de ça il y a 15 jours, au fil des recherches, elle s'est aperçue qu'elle n'était pas orpheline. Elle a des parents à la Réunion. C'est ce qu'on lui avait caché au départ. Donc aujourd'hui, son grand rêve, c'est de pouvoir repartir à la Réunion et retrouver ses parents, peut-être des frères et des sœurs. Même si vous voulez, quand ça s'est bien passé, il y a quand même ce déracinement qui est toujours là. Et quand on se met à la recherche de son passé, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Et des fois, c'est très douloureux. Ce sont de nouvelles chutes, si vous voulez, qui vous entraînent encore plus profond vers le gouffre. Et puis d'autres vers un peu de lumière, un peu d'espoir. J'ai des parents, j'ai des frères de l'autre côté de la mer. Bon, je vais y aller. Le petit problème, c'est que quand 40 ans après, ils reviennent dans l'île, ils ne reconnaissent plus le Haril qui a beaucoup changé, effectivement. On a bétonné, comme ailleurs. Et puis l'île ne les reconnaît plus non plus. J'en ai rencontré un qui est venu à l'un de mes débats. Il a vécu plus de 40 ans dans le Tarn. Il est rentré à La Réunion avec un accent du coin de sa région. Alors comment s'identifier de nouveau par rapport à la langue créole, par rapport à l'identité créole et par rapport à notre culture? Il y a une sorte de déphasage, de déracinement en fait qui continue. En France métropolitaine, ils n'étaient pas chez eux. Ils reviennent à La Réunion, ils ne sont pas non plus chez eux. Mais alors qui sont-ils? Où pourrait-il aller pour être de nouveau heureux? C'est véritablement la question qu'on se pose.
Mais il faut reconnaître en effet que parmi tous ces enfants, certains ont eu un peu moins de malchance que les autres, et c'est le cas d'Eva. Mais c'est vrai que dans ses yeux, on croise des enfants affamés, des enfants battus, abusés, particulièrement quand elle va de ferme en ferme à la recherche de ses frères. Elle croise des horreurs. Et d'ailleurs, quand elle arrive dans la maison où son frère Tony est sans doute détenu, j'ai envie de dire, l'homme qui tient la maison, vous le décrivez comme un ogre. Et ça m'a frappé ce mot parce que ça fait partie du lexique que l'on retrouve dans les contes, comme le petit poussé, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes que vous décrivez où on est dans les plaines, dans les montagnes, il fait très froid, il y a de la neige, Eva, elle a une capuche, elle a un petit peu le petit chaperon rouge. Et je me disais, est-ce que pendant l'écriture, vous aviez l'impression aussi d'être dans le registre du fantastique, de l'irréel ?
Absolument, et puis aussi de cette destinée qu'on ne maîtrise pas. Quand j'étais dans la Creuse, donc j'ai voulu faire cet itinéraire. En fait, Eva suit mon itinéraire. On a été jusqu'à Turenne, et en descendant vers la Corrèze, je traverse un lieu dit qui s'appelle Malmort. Je dis, ce n'est pas possible, le mal qui donne le main à la mort. Bon, c'est là où doit se passer l'une des scènes les plus dramatiques de mon roman. Donc la toponymie même m'envoie un signe. Si vous voulez, comme quoi ce pays, quelque part, était inhabitable hier, aujourd'hui encore. Et donc, j'ai donné pour titre l'ogre de Malmort. L'ogre, il avale, il dévore la destinée de tous les enfants qui passent entre ses mains. Et il ne s'en fait pas, il rigole à l'intérieur de lui-même en me disant, de toute façon, c'est vrai, on peut me retirer, on peut me critiquer, on peut me blâmer, mais demain, la psychologue, l'assistante sociale, viendra frapper à ma porte et m'offrir d'autres enfants. Voilà, donc on lui apporte d'autres enfants à cet ogre-là, qui est une figure symbolique pour montrer toute la détresse de ces enfants-là, qui débarquent bien souvent en hiver, la neige qu'ils ne connaissent pas, un paysan rustre qui ne maîtrise pas forcément la langue française non plus, pas plus que le jeune réunionnais qui débat, qui ne parle que le créole. Donc autant, si vous voulez, un espace de malentendus, d'abus de toutes sortes. Et il faut dire que les paysans du coin, ils ne s'en sont pas privés, effectivement.
L'écriture, justement, parlons-en, car Eva, votre personnage principal, même s'il lui faudra beaucoup de temps pour passer à l'acte, elle décide d'écrire cette histoire, la sienne, mais aussi celle de tous ses enfants martyrs, un peu d'ailleurs dans les traces de cette grande dame qui l'a hébergée et qui, elle, tenait absolument à écrire son autobiographie pour raconter les horreurs subies par la communauté juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Eva, elle prend aussi la plume pour crier son indignation, ou aussi, et peut-être d'abord pour faire savoir aux générations suivantes ce qui s'est passé, sortir de l'oubli, dire à haute voix.
Je crois beaucoup en l'écriture comme une forme de thérapie. D'ailleurs, moi-même, je me suis appliqué cette écriture comme forme de thérapie très tôt, parce que je viens d'une enfance douloureuse également. Et je me suis dit que Eva, en écrivant sa propre histoire, pourrait montrer aux autres ex-mineurs de la Creuse que si eux-mêmes, ils écrivent leur propre histoire, tout au moins la racontent à d'autres qui savent écrire, ils pourront s'en sortir beaucoup plus rapidement, peut-être. Donc là, en même temps, en écrivant, en s'écrivant, si vous voulez, Eva envoie un signe très très fort aux 2000 ex-mineurs de la Creuse en leur disant « Prenez la parole, racontez votre histoire pour que ça ne se reproduise plus jamais, ni à La Réunion, ni en France, ni dans aucun pays du monde. » C'est en ce sens que j'ai voulu non pas écrire un roman historique, mais une fiction. Ma fiction se nourrit bien sûr de l'histoire, mais à un moment donné, pour que la fiction puisse tendre vers la littérature, vers une dimension universelle, la fiction doit prendre toute sa distance avec l'histoire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est ce que Eva essaie de faire également, en pianotant sur sa machine au départ, en étant beaucoup plus à l'aise après, parce que l'écriture de soi, et en même temps l'écriture de l'histoire de l'autre qu'on aide, vous apporte un regain de confiance, un regain d'espoir, de lumière. Donc c'est autant d'énergie que Eva reçoit d'elle-même et de la part de l'autre qui l'amène à aller jusqu'au bout de son écriture, jusqu'au bout de son histoire et même jusqu'au bout de sa souffrance et de la souffrance des autres. C'est en ce sens où le regard d'Eva est intéressant encore aujourd'hui en 2019. Elle dit à tous ceux qui liront ce livre, à tous ceux qui verront un documentaire, à tous ceux qui rencontreront les ex-mineurs de la Creuse lors d'un débat ou d'une rencontre autour d'une table, mettez-vous à l'écoute de ceux-là qui ont des choses à dire, hein, des choses très profondes qui appartiennent à leur histoire, bien qui appartiennent aussi à l'histoire de La Réunion et surtout qui appartiennent aussi ces choses-là à l'histoire de la France. Bien sûr. C'est là où le bât blesse, dans la mesure où aujourd'hui encore la France ne veut pas tellement reconnaître cette histoire comme la sienne. Or, c'est bien dans les 80 départements métropolitains les plus dépeuplés d'ici que ces jeunes réunionnais et réunionnaises ont vécu.
Donc, et souffert.
Et souffert, bien sûr. Et donc leur histoire, c'est bien l'histoire de la France. Et donc ils se battent aujourd'hui, et c'est aussi un message lancé par Eva, qu'il y a un mémorial à Paris destiné aux ex-mineurs de la Creuse, et qui reconnaissent leur souffrance, et qui reconnaissent tous les abus, pas pour aller vers une victimisation, ce n'est pas ça du tout, mais pour qu'ils puissent retrouver un peu de dignité, de dire, bon, j'ai souffert, d'accord, je tiens un trait, et je me tourne vers autre chose. C'est ce qu'ils attendent aujourd'hui de l'État français. On leur a promis un mémorial, mais dans la Creuse. Ça ne va pas, parce qu'ils ont été éparpillés, dispersés, disloqués sur plus de 80 départements français. Donc ça concerne l'ensemble de la France métropolitaine et non pas une région de la Creuse. Pourquoi stigmatiser la Creuse? C'est une histoire qui appartient à la France. Et ils demandent aujourd'hui, et c'est là où moi, en tant qu'ancien enseignant, je suis à la côté, que leur histoire soit enseignée dans nos écoles. Ce qui serait la moindre des choses, comme on enseigne l'histoire de l'esclavage, comme on enseigne l'histoire de la Réunion. Et je pense que ça montrerait effectivement que le Réunionnais, au-delà de sa souffrance, il n'abandonne pas. Et ça, c'est pas une leçon qui concerne uniquement nous, ça concerne l'ensemble des peuples de tous les pays du monde, ne jamais abandonner. Notre planète va mal aujourd'hui, on n'abandonne pas. L'économie va mal, on n'abandonne pas. Voilà, c'est une leçon de courage qu'Eva adresse en fait au monde entier dans une dimension universelle.
Merci beaucoup Jean-François Samelon. Je rappelle le titre de ce roman, Un soleil en exil, qui est apparu aux éditions Gallimard.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.